nous, le collectif antinucléaire 84, donc de Vaucluse, on est un groupement informel de citoyens sur une position très claire, très nette. C'est l'arrêt immédiat, inconditionnel et définitif du nucléaire pour des raisons sanitaires et de santé publique. On n'est pas dans des stratégies d'alliances politiciennes ou autres. On essaye et on développe le rassemblement et la conscience, on va dire, de la population et des salariés des entreprises de Vaucluse et un peu au-delà sur cette exigence d'immédiateté de l'arrêt du nucléaire. On est des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes. On est à peu près 200 actifs dans le collectif antinucléaire 84. Et plus largement, on a 600 personnes qui relaient nos informations. Pourquoi on peut dire bah, c'est peu et c'est beaucoup? En fait, on se trouve, nous, au cœur de la région la plus nucléarisée de France et d'Europe, qui est la Provence, au-delà de l'Aïoli, du Thym et des Cigales. Il y a aussi une autre réalité quotidienne qui pèse en permanence sur notre vie et qui atteint en permanence notre vie, c'est la présence des sites nucléaires. On n'a pas de chance dans la mesure où on se trouve au cœur de ce qu'on appelle, nous, le triangle de la mort, c'est-à-dire de l'implantation de 3 sites énormes nucléaires, l'un qui est à la limite, le long du Rhône, à la limite dans le Gard et qui s'appelle Marcoule, le site nucléaire de Tricastin, à la limite et sur à la fois le Vaucluse et la Drôme, et puis Cadarache, le site du CEA, mais pas que du CEA de Cadarache, qui lui se trouve dans les Bouches-du-Rhône, mais aussi à la limite du Vaucluse. Donc je dirais qu'on a fort à faire avec le lobby nucléaire et avec les assassins. Très concrètement, on s'est constitué en collectif antinucléaire voici 4-5 ans maintenant, même si on était déjà dans des mouvements éparses de lutte contre le nucléaire, mais disons qu'on s'est constitué en collectif il y a 4-5 ans, notamment après une série d'incidents et d'accidents qui ont eu lieu à Tricastin. Alors, je reviens un peu en arrière, donc je présentais le triangle de la mort, donc Marcoule dans le Gard, c'est le haut lieu de la fabrication de la bombe atomique. C'est là qu'ont été mis en place les premières fabrications de la bombe nucléaire française. Et Marcoule, c'est à la fois du secteur civil, du secteur militaire, des centres de recherche et du retraitement de matériaux irradiés. Donc c'est énorme, ça s'étale sur plusieurs milliers d'hectares et ça recoupe plusieurs communes. Évidemment, ça touche aussi du fait que la radioactivité ne connaît ni frontières politiques, ni administratives, ni géographiques. Évidemment que Marcoule a des impacts très directs sur les départements voisins et bien au-delà. Voilà. Donc les départements voisins du Gard et du Rhône, c'est quoi? C'est la Drôme, c'est le Vaucluse. Et donc dans le Haut-Vaucluse, il y a donc le site de Tricastin, qui comporte lui aussi plusieurs installations nucléaires de base, pas que des réacteurs. Alors il y a 4 réacteurs nucléaires, dont plus de la moitié ne produisent pas d'électricité d'ailleurs pour la population ou pour les besoins des entreprises, mais servent à la production du cycle d'enrichissement de l'uranium, donc du cycle nucléaire, puisque à Tricastin, il y a aussi des unités d'enrichissement d'uranium, initialement Eurodif, qui aujourd'hui s'appellent Georges Bess 1 et Georges Bess 2. Dont la fonction est de la production d'uranium enrichi pour les centrales nucléaires. Et il y a toute une série aussi d'autres petites installations. Alors quand je dis petites, ce n'est pas par la taille, mais c'est parce qu'elles sont périphériques du gros pôle des réacteurs et de l'enrichissement de l'uranium et qui visent aussi au traitement d'un certain nombre de déchets solides ou liquides. Ça, c'est Tricastin. Et un peu plus bas, donc, mais toujours dans cette zone de Provence, on est cerné par Cadarache, où là, on retrouve effectivement 19 installations nucléaires de base, aucune production d'électricité pour la population, centre de recherche du CEA, d'AREVA, d'EDF, au lieu aussi de l'alliance terrifiante entre le domaine public, le domaine privé, la recherche, le militaire et le civil. Je reviens un peu en arrière, à Marcoule, on a effectivement toutes les structures impliquées dans le nucléaire en France, donc le CEA, AREVA, ex-COGEMA et EDF et toutes ses filiales. Alors évidemment, on a fort à faire face au lobby et pour nous, le nucléaire donc, ne relève pas d'une discussion théorique ou de salon ou d'une discussion de stratégie, mais on est confronté au quotidien donc, à l'impact du nucléaire et à sa nocivité. on a non seulement fort à faire en dire, face au lobby et à la puissance destructrice du lobby en termes sanitaires, mais aussi en termes de conscience, en termes d'idéologie, en termes de culture et en termes d'omerta. Pourquoi cet aspect de l'omerta? C'est parce que un certain nombre d'élus municipaux, d'élus régionaux, d'élus du département ou des départements sont issus directement du lobby nucléaire, notamment d'Areva ou d'EDF. Et donc, on voit très nettement une pénétration, une perversion des institutions et des assemblées élues par le lobby nucléaire. C'est le cas des mairies, mais c'est le cas aussi du Conseil général, notamment. Donc, on a à faire face au lobby, mais aussi à tous ces rouages ou ces relais qui, sous couvert d'un démocratisme, sont en fait des porte-parole ou des relais idéologiques du nucléarisme et du scientisme de la destruction atomique. On intervient comment en fait? Comment on essaye de contrebalancer la loi du silence, cette omerta qui pèse lourdement sur les populations dans notre secteur? Eh bien, on essaye à la fois de mobiliser la population, c'est-à-dire de faire un travail, on va dire, d'éducation populaire, en organisant à la fois des actions coup de poing, et puis aussi un travail, on va dire, de fourmi, notamment par notre présence dans des lieux publics, lors de manifestations, travail d'information, de remise à la lumière de ce qu'est le nucléaire, et notamment ses aspects négatifs sanitaires.
Votre action au niveau du Conseil régional du Vaucluse, elle s'inscrit dans ce cadre aussi de communication?
Elle est à la fois acte de communication dans la mesure où on se sert, entre guillemets, en tous les cas, on implique les médias, on a impliqué les médias dans cette action, et je reviendrai comment on l'a fait, d'ailleurs ça peut être intéressant pour d'autres. C'est donc à la fois un travail d'information de la population, mais aussi et avant tout une mise en accusation de la gangrène des institutions et de la complicité des élus, notamment du Conseil général. Alors pourquoi cette action d'occupation coup de poing du Conseil général lors de sa session plénière, la première session plénière de l'année 2012, et bien tout simplement parce que on a depuis 2 ans, voire 3 ans maintenant, interpellé individuellement tous les élus, les 151 maires des villes et villages de Vaucluse, les 20 et quelques conseillers généraux, le président du Conseil général. On les a interpellés sur la nocivité et les atteintes à la santé dans le département, en leur demandant des choses très simples. C'est d'une part de faire réaliser des analyses de tous les points de distribution d'eau et de prélèvement d'eau dans le Vaucluse, puisque nous, Cannes 84, suite à l'accident nucléaire de Tricastin de l'été 2008, où 70 kilos de tritium avaient été rejetés dans la nature, qui ont contaminé les rivières de l'Auzon et de la Gaffière, et au-delà les nappes phréatiques, et donc les vignobles. Donc nous, le Cannes 84, on avait pris l'initiative sur nos deniers propres et sans aucune subvention de qui que ce soit, pris l'initiative de faire réaliser des analyses d'eau au robinet de plusieurs villes du département de Vaucluse, 3 villes, 2 villes, on va dire, d'importance comme Avignon et Carpentras, et puis un village, Mornas, qui se trouve entre Avignon et Tricastin, donc vers le haut du département, plus proche du site nucléaire. Ces analyses ont révélé une présence de tritium dans l'eau du robinet.
Mais les rejets, ce n'étaient pas des rejets d'uranium?
C'était des rejets d'uranium, mais qui ont généré, de par l'évolution et la destruction de l'uranium, une présence de tritium dans l'eau du robinet.
Et sinon, l'uranium lui-même, il est descendu, il est dans les nappes, il est où?
À ce jour et depuis l'accident, le périmètre d'analyse a été limité. Ils n'ont pas cherché, et personne n'a cherché, malgré notre pression, à savoir ce qu'était devenu effectivement l'uranium, où il était passé, et aujourd'hui, où on en est, quoi. En connaissant évidemment la durée de vie de l'uranium, qui n'est pas rien.
Ils ont changé les appellations Tricastin, des vins dans la Drôme.
Oui.
Et donc, ça fait l'objet d'un budget, je crois, de 1 ou 2 millions d'euros. Est-ce que tu penses que l'intervention du président de la République, qui vient en fin de compte dire qu'on ne fermera pas Fessenheim parce que les industriels en ont besoin, c'est-à-dire un homme, un élu qui est censé représenter le peuple, vient opposer à la demande d'arrêt immédiat légitime du peuple les intérêts d'un groupement qui n'est même pas national, parce que les industriels sont transnationaux, à la volonté du peuple? Qu'est-ce que tu penses de ça?
Oui, mais je pense qu'on est à la fois dans le déni de la démocratie, c'est-à-dire de l'expression populaire, encore qu'elle soit biaisée depuis 50 ans de propagande nucléaire. Donc on oppose effectivement l'urgence sanitaire et l'aspiration des peuples à des intérêts privés, et c'est là qu'on voit bien que les élus, quel que soit leur bord d'ailleurs, et nous on le mesure en Vaucluse, ne sont que des relais entre les mains d'intérêts privés ou d'intérêts de groupements transnationaux. Qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs, ça ne change rien à l'affaire, hein, malheureusement.
Que penses-tu de la position actuelle des mouvements citoyens japonais qui consiste à essayer d'impliquer des élus locaux, notamment de grandes villes, pour qu'ils exigent que la fourniture en électricité de leur ville ne soit plus d'origine nucléaire?
Nous, on est assez favorable à cela dans la mesure où c'est un peu le sens de notre action coup de poing d'occupation du Conseil général de Vaucluse, hein, qui visait donc à contraindre les élus, à les amener en tous les cas à prendre des mesures de protection immédiate sanitaire et à faire réaliser des analyses, mais aussi effectivement à prendre position pour un arrêt immédiat des sites et de la production nucléaire dans notre région. Donc on est assez favorable effectivement à impliquer les élus. Alors l'intérêt d'impliquer les élus, c'est effectivement c'est où ils se positionnent ou ils ne se positionnent pas, et en fonction de leur position, éventuellement donc de mener le combat avec eux ou eux avec nous, ou au contraire de les dénoncer publiquement comme étant des valets du lobby nucléaire.
Est-ce que vous avez accès aux chiffres au niveau du Vaucluse sur la consommation du lévothyrox?
Non. Malheureusement, on interpelle assez fréquemment et voire pratiquement tous les mois toutes les institutions ou toutes les administrations qui ont en charge les questions de santé sanitaire ou etc. Par exemple, l'hôpital d'Avignon qui voit une recrudescence d'accueil de personnes atteintes de cancer de la thyroïde depuis 3 ans. Donc on interpelle toutes ces institutions, l'Agence régionale de santé, les services de santé préfectoraux, etc. Et à chaque fois, on se trouve, alors on les interpelle à la fois publiquement par les médias, par la radio, mais aussi par lettre recommandée pour les contraindre à nous répondre eux aussi par lettre recommandée. Et on commence à avoir un petit paquet de lettres où c'est chaque fois, on botte en touche. Soit on n'a pas les statistiques, soit on ne peut pas vous les fournir, soit c'est couvert par le secret de ceci, cela. Enfin bref, c'est démentiel, quoi.
Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, par des réseaux citoyens, en contactant les pharmaciens, c'est-à-dire en contactant les distributeurs à la source du lévothyrox, d'obtenir justement des chiffres anonymes globaux de consommation sur le Vaucluse?
Alors là encore, on se trouve confronté à une complicité de fait des institutions et des intérêts particuliers. À de rares exceptions près, hier on avait eu un débat conjoint avec ATTAC dans une petite ville de Vaucluse qui s'appelle Pernes-les-Fontaines, où on a découvert donc une présence d'uranium dans les sous-sols, et je discutais avec un toubib qui est un médecin qui se prononce contre l'armement nucléaire et pour l'arrêt immédiat du nucléaire. Et ce médecin disait qu'il avait interpellé avec des collègues, aussi bien au niveau de la région qu'au niveau des institutions professionnelles, pour avoir des statistiques, des chiffres et souhaiter mener une étude épidémiologique de fond et durable. Eh bien, à chaque fois, eux-mêmes, les scientifiques, donc les toubibs, se trouvent confrontés à l'omerta de groupes privés qui ont des intérêts, parce que faut pas se leurrer, plus il y a de victimes sanitaires du nucléaire, plus ça augmente le PIB, ça fait tourner l'industrie pharmaceutique, les labos, les hôpitaux, et c'est de l'augmentation du PIB, et tous ces intérêts privés s'y retrouvent.
Donc on s'aperçoit que le nucléaire n'est ni un problème financier, ni un problème économique, mais uniquement un problème sanitaire.
Tout à fait, et une urgence sanitaire, parce que c'est au quotidien que la santé et la vie est mise à mal.
Eh bien Jean, je te remercie et j'espère que tu réinterviendras dans une de nos prochaines émissions.
Avec plaisir et bon courage à Réseau Zéro Nucléaire et puis à ton émission.
Merci, au revoir.
Au revoir.